Le journal Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. 3 millions de personnes dans l'angoisse d'une attaque imminente en Syrie, dans la province d'Idlib, dernier bastion rebelle. Les discussions entre la Russie, l'Iran et la Turquie ont échoué hier, tout comme la réunion du Conseil de sécurité. Les précisions à suivre avec Laure Stéphan.
Nous irons aussi au Caire, où deux femmes risquent la prison pour avoir dénoncé le harcèlement sexuel dans des vidéos postées sur Internet.
Alors qu'en France, les Républicains enchaînent les rendez-vous en ordre dispersé, une droite éclatée qui peine à exister, analysera pour nous Stéphane Robert. Aux États-Unis, Barack Obama est entré en campagne hier pour les élections de mi-mandat pour mobiliser son camp face à Donald Trump. Caroline Brouet, et la situation explosive autour du président américain, ce sera le thème de votre invité de ces matins du samedi.
Absolument. Romain Huret est historien des États-Unis, il est directeur de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales. Avec lui, nous prendrons un peu de hauteur comme il aime le faire.
Merci Caroline. Mais on commence par un cri d'alarme lancé par 700 scientifiques dans les colonnes du journal Libération aujourd'hui. Nous appelons aux décideurs politiques face à l'urgence climatique. Est-ce que j'ai une société structurée qui descend dans la rue? Interrogé Nicolas Hulot dans sa démission. Une réponse sera donnée aujourd'hui en partie alors qu'une marche mondiale pour le climat est organisée, notamment à Paris. Clémence Dubois est membre de l'ONG 350.org. Elle espère qu'une prise de conscience s'inscrira dans le temps.
Pour beaucoup de personnes, c'est la prise de conscience que ce n'est pas un problème pour les générations futures, mais déjà pour nous. On a toujours parlé de la crise climatique et environnementale comme quelque chose d'exogène, qui viendrait dans le futur. Moi-même, on m'a toujours dit que il fallait se battre pour la Terre, pour les générations futures, alors qu'en réalité, c'est à l'échelle de la vie de ma génération qu'on va déjà avoir à subir des conséquences dramatiques. Donc les gens sont prêts, je pense, à demander un changement qui soit rapide et radical. Nicolas Hulot a dénoncé la politique des petits pas. Et je pense que pour les citoyens, c'est un moment de sortir aussi de l'engagement des petits pas, c'est-à-dire un engagement qui serait finalement lié à des habitudes de consommation qui sont évidemment nécessaires, changer ces modes de consommation, mais pour tourner le regard aussi vers la production. C'est-à-dire, au lieu de s'organiser individuellement, je pense qu'il y a une envie de s'organiser collectivement. C'est seulement en organisant stratégiquement un contre-pouvoir citoyen pour provoquer de l'impact à la fois sur les politiques qui sont menées par le gouvernement, mais aussi sur nos élus locaux, puisqu'ils ont aussi un rôle à jouer. En fait, il faut effectivement demander des comptes. Et je pense que toutes les personnes qui seront dans la rue ce samedi ont compris que nous ne pouvons pas attendre que les gouvernements agissent, mais qu'il faut aller leur demander des comptes et les tenir responsables de ce qui est en train de se passer.
Clémence Dubois de l'ONG 350.org répondait à Véronique Rebérotte pour France Culture.
La diplomatie au point mort en Syrie, où le sort de 3 millions d'habitants de la province d'Idlib, dernier bastion rebelle, était au cœur des discussions entre l'Iran, la Russie et la Turquie. Réunion au sommet à Téhéran.
Et aucun accord à la sortie, même constat d'échec au Conseil de sécurité des Nations Unies cette nuit. Alors qu'une vaste offensive du régime syrien serait imminente et que des frappes aériennes auraient déjà eu lieu cette nuit, suivies par des tirs d'obus qui ont fait au moins 10 morts, la population est dans l'attente angoissée. Depuis Beyrouth, Laure Stéphan les a contactés.
Dans la province d'Idlib, les espoirs qu'un accord pour un statu quo soit trouvé au sommet réunissant l'Iran, la Russie et la Turquie sont retombés. Mahmoud Saloum est instituteur dans l'est de la région insurgée.
Des renforts de l'armée sont postés en lisière de la province d'Idlib. Tout est incertain, les gens ont peur d'une invasion. La vérité, c'est que la décision de ce qui va se passer n'est pas entre nos mains. Elle dépend de la confrontation des politiques. Idlib, c'est notre dernier refuge.
Des manifestations ont eu lieu hier dans la ville d'Idlib, appelant la Turquie à empêcher une offensive. La peur va crescendo. Mahmoud Saloum.
Notre bourgade est à portée de tir de l'armée du régime. Mais ça n'empêche pas que l'école, le commerce, la vie continuent. L'autre jour, des obus sont tombés en lisière de notre localité. Les gens sont immédiatement descendus aux abris, puis peu après, ils sont retournés à leurs activités quotidiennes. Mais la peur d'une invasion est bel et bien présente.
L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, a plaidé hier devant le Conseil de sécurité pour l'ouverture, je cite, de routes d'évacuation volontaires pour les civils. Il a aussi appelé les combattants à quitter les zones peuplées dans la province.
Laure Stéphane pour France Culture. Alors qu'en Irak, le consulat d'Iran à Bassora a été incendié hier soir. Les violences se poursuivent depuis 10 jours autour de manifestations de la population dans cette ville pétrolière du sud du pays. Depuis le début de la semaine, on dénombre au moins 10 morts. Les habitants s'insurgent contre la rente pétrolière confisquée par les multinationales notamment et contre les milices surpuissantes dans la région. On y reviendra dans le journal de 9h sur France Culture.
Et voyage maintenant pour le Caire où deux procès emblématiques se tiennent ce week-end. Deux femmes qui ont dénoncé le harcèlement sexuel en postant des vidéos sur Internet risquent la prison.
Oui, une nouvelle illustration de la place accordée à la parole des femmes en Égypte et au harcèlement sexuel, alors que le régime a resserré encore un peu plus l'étau sécuritaire. Martin Roux.
Ce ne sont pas les harceleurs qui comparaîtront ce week-end, mais bien les victimes. Deux femmes placées en détention depuis le mois de mai doivent être jugées au Caire à un jour d'intervalle pour avoir dénoncé dans des vidéos postées sur les réseaux sociaux des faits de harcèlement sexuel. Aujourd'hui, la militante Amal Fati se présentera devant la justice. Les charges qui pèsent contre elle sont lourdes. Incitation à renverser le régime, diffusion de fausses rumeurs et utilisation abusive des réseaux sociaux. Dans sa vidéo postée en mai, Amal Fati se plaint de la drague insistante des agents de sécurité d'une banque et s'en prend aux autorités qui, selon elle, ne protègent pas les femmes. Toujours au mois de mai, une touriste libanaise de 24 ans est interpellée à l'aéroport du Caire alors qu'elle quittait le pays. Elle aussi avait publié une vidéo dans laquelle elle témoignait des multiples faits de harcèlement dont elle avait été victime tout au long de son séjour. Elle est condamnée en juillet à pas moins de 8 ans de prison pour atteinte au peuple égyptien et offense à la religion. Son procès en appel doit s'ouvrir demain. Il faut dire que ces deux procès interviennent après la promulgation d'une loi qui restreint dangereusement la liberté de parole sur Internet. Et s'il arrive que le harcèlement de rue, un véritable fléau dans le pays, soit relayé et condamné sur les plateformes en ligne, ces deux affaires montrent toutefois que le mouvement mondial MeToo de libération de la parole des femmes se heurte en Égypte aux atteintes de plus en plus graves à la liberté d'expression.
Martin Roux au Caire pour France Culture. Alors qu'aujourd'hui, on attend le verdict à l'issue du procès du photojournaliste égyptien Chokan, emprisonné depuis 5 ans maintenant, poursuivi pour meurtre, tentative de meurtre et appartenance à un groupe interdit après avoir couvert une manifestation pro-Morsi pour l'agence de photos britannique Demotix. Au Nicaragua, une grève de 24 heures du secteur privé a partiellement bloqué hier la capitale du pays. Une action à l'appel de l'Alliance de l'opposition pour demander la libération de prisonniers politiques et la reprise du dialogue avec le gouvernement du président Daniel Ortega. Depuis avril dernier, plus de 320 personnes ont été tuées, notamment au cours de manifestations.
France Culture 8h07, suite du journal. Voilà qui ne devrait pas arranger la situation de Donald Trump aux États-Unis. Barack Obama est entré en campagne hier pour les élections de mi-mandat aux États-Unis, les fameuses mid-terms qui renouvellent les deux chambres du Congrès.
Oui, une entrée en campagne avant d'aller soutenir officiellement aujourd'hui les candidats de son camp en Californie. L'ex-président recevait hier un prix d'éthique en politique dans l'Illinois. L'occasion pour lui de sortir de son silence puisque pour la première fois depuis l'élection de Donald Trump, il s'est ouvertement attaqué à lui et à son camp, Louis Loury.
Il s'était retenu pendant presque 2 ans, mais depuis hier, le champion démocrate est de retour.
Ces dernières décennies, la division, le ressentiment et la paranoïa ont trouvé place, malheureusement, dans la politique, celle du Parti républicain.
La référence à la tribune explosive du New York Times est à peine voilée, tout comme celle qui vise Donald Trump et ses choix politiques.
On ne cible pas des groupes de gens en fonction de ce à quoi ils ressemblent ou de leur religion. Nous sommes Américains, on est censé se battre contre l'injustice. Comment cela peut-il être difficile de dire que les nazis ne sont pas fréquentables ?
Les penchants racistes ou complotistes de l'actuel président, ses attaques contre la presse ou la science, tout y passe. Mais Trump, dit Barack Obama, n'est qu'un symptôme d'une Amérique malade et ce sont eux, les électeurs, qui sont l'antidote.
Une seule élection ne permettra pas de réparer tout ce qui en a besoin, mais ce sera un début. Les gens me demandent « qu'est-ce que vous allez faire pour l'élection ?» La question c'est « vous, qu'allez-vous faire ?»
Et début de réponse le 6 novembre prochain pour des élections cruciales de mi-mandat. Les démocrates ont un héros pour 2018, reste à en trouver un pour 2020.
Loïc Loury aux États-Unis pour France Culture. Romain Huret, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'historien et l'invité des matins du samedi, spécialiste de l'histoire des États-Unis. Alors, quelle peut être l'importance de ce retour de Barack Obama au premier plan de la politique américaine face à Donald Trump ?
L'importance est considérable, hein. C'est bien qu'il sorte de son silence. C'est la semaine dramatique dont nous allons parler ce matin, que nous avons tous vu de loin depuis Paris, montre bien à quel point on a besoin de voix qui prennent la parole. Hein, et les présidents ont toujours une voix très importante dans le discours politique, hein, même après leur présidence. Et donc là, c'est une voix très solennelle qui s'est exprimée et qui rappelle à Trump les règles du jeu démocratique et les règles du jeu de l'Amérique, plus généralement. Hein, et j'ai trouvé très intéressant qu'ils disent bien que Trump n'est pas le problème. Trump est un symptôme d'une Amérique qui va mal. Et tous les candidats doivent prendre en considération cela. C'est-à-dire que Obama dit bien que, au-delà du caractère paranoïaque de Trump, au-delà de tout ce qu'on a pu lire cette semaine, il y a de vrais problèmes à régler. Trump n'a pas probablement les bonnes solutions, mais il incombe à tous les candidats démocrates de les trouver et d'éviter que de nouveaux Trump soient élus en novembre. Et ce qui est dit, ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, à mon avis, a des conséquences aussi très importantes pour la France. Parce que nous risquons le même destin si nous n'entendons pas ces symptômes.
En quelques mots, donc cette semaine, vous disiez dramatique, qui s'est déroulée aux États-Unis.
Dramatique pour la démocratie. On a appris que les décisions étaient prises avec une très grande légèreté. Des décisions diplomatiques sur la Corée du Nord étaient prises avec des documents qui disparaissaient du bureau Oval. Enfin, si tout ça est confirmé, c'est très inquiétant, non seulement pour les États-Unis, mais pour le reste du monde.
Merci Romain Yoré, vous restez avec nous bien sûr, hein, juste après le journal pour la suite des matins du samedi de Caroline Brouet. Il faut parler plus longuement des déboires de Donald Trump, après notamment l'édito anonyme publié dans les colonnes du New York Times. Au Japon, un puissant séisme a fait au moins 30 morts dans le nord du pays, sur l'île d'Hokkaido. Cette nuit, le tremblement de terre a provoqué de nombreux glissements de terrain. Des dizaines de milliers de secouristes intensifient leurs efforts en ce moment pour retrouver des survivants. En France, malgré une rentrée très compliquée pour Emmanuel Macron et la majorité, la droite n'en profite pas et reste divisée. Les principaux leaders de Les Républicains essaient d'exister chacun de leur côté et se dispersent entre les différents rendez-vous politiques organisés un peu partout en France. Stéphane Robert.
Valérie Pécresse se démultiplie pour participer à presque tous les événements organisés en cette rentrée par sa famille politique. Elle était hier à Saint-Laurent-du-Var, auprès de Christian Estrosi et de Xavier Bertrand. Aujourd'hui, elle sera à Bordeaux, aux côtés d'Alain Juppé et des Juppéistes. Les jeunes républicains, quant à eux, tiennent un campus de rentrée au Touquet, dans le Pas-de-Calais. La droite est dispersée façon puzzle, ce qui contrarie un peu le président Les Républicains du Sénat, Gérard Larcher.
Si je comprends que les sensibilités se réunissent, débattent, c'est légitime. Je regrette qu'une rentrée du mouvement Les Républicains ne soit pas organisée. Je reste convaincu que la force d'un mouvement politique est sa capacité à rassembler.
Ce qui est en train de se passer est que les principaux leaders de la droite républicaine constituent, chacun de leur côté, leur petite écurie. Valérie Pécresse avec son mouvement libre, au sein du parti Les Républicains. Xavier Bertrand, lui, a mis en place une structure qui s'appelle la Manufacture. Quant au sénateur Bruno Retailleau, il a hérité de Force Républicaine, le mouvement de son ancien mentor François Fillon, et il fait lui aussi sa rentrée ce week-end à Paris, avec pour objectif dans les années à venir de reconstituer le socle programmatique de la droite.
On voit bien que, alors même que les Français se détournent d'Emmanuel Macron, que ça ne profite pas à LR. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il faut qu'on définisse un vrai projet.
Les Républicains se sont trompés en se dotant d'abord d'un leader ?
Vous savez bien que j'avais été un des seuls à l'époque à dire que ça n'était pas le fond du problème, qu'il fallait d'abord définir les projets, ce qu'on voulait proposer aux Français, et que la question du chef viendrait ensuite.
Il y a de plus en plus au sein de la droite républicaine une contestation du leadership du président des LR, Laurent Wauquiez, qui pour le moment a beaucoup de mal à s'imposer et à rassembler.
Stéphane Robert. Les recalés de Parcoursup peuvent encore agir. Ils sont plus de 7000 futurs étudiants à ne pas avoir été acceptés dans un établissement de l'enseignement supérieur, dont 3000 qui ont eu le bac en juin dernier. Plusieurs organisations, les syndicats étudiants UNEF, UNEL, le syndicat lycéen, les parents d'élèves, la FCPE notamment, proposent une aide juridique aux jeunes pour qu'ils puissent connaître les motifs de rejet de leur candidature. L'objectif étant de créer un contentieux de masse. Cette aide est disponible via le site SOS Inscription. Le groupe ArcelorMittal est poursuivi pour gestion irrégulière de ses déchets. En 2017, une enquête préliminaire pour une pollution présumée à l'acide sur le site de Florange en Moselle avait été ouverte. Les conclusions ont été rendues hier. La procureure de Thionville affirme que le produit déversé des eaux usées mélangées à de l'acide chlorhydrique n'était pas autorisé sur le site. Un samedi très largement ensoleillé aujourd'hui. Seules quelques brumes signalées ce matin sur le nord et sur la Normandie ainsi que la Bretagne. Température agréable avec ce matin 16 degrés à Lille, 18 à Paris et à Chambéry, 20 degrés à La Rochelle, 21 à Lyon, 24 degrés à Nîmes et cet après-midi 21 degrés sur l'Île-de-France, 24 à Clermont-Ferrand jusqu'à 27 degrés à Nice.